On va parler maintenant d'un festival avec notre invité Boris Barbieri qui est communicant pour ce festival, l'Étoile Filante, un festival qui existe depuis maintenant 14 ans. Alors première question, est-ce que c'est difficile de se renouveler? Est-ce qu'il faut forcément se réinventer? Ou parce qu'il est installé, alors on surfe sur cette notoriété maintenant qu'il précède ce festival, l'Étoile Filante? Je rappelle, jeune public.
Voilà, non, c'est pas difficile dans le sens où on peut avoir toujours le même objectif. Mais en fait, chaque année, d'abord, on a un thème différent chaque année. Mais après, ce qui nous guide, ou la philosophie de l'entreprise, ou les choix qu'on est amené à faire, la manière dont on compose une programmation, dont on essaie de l'équilibrer pour des âges finalement assez variés, puisqu'on s'adresse à un public qui va en gros de 3 à 13 ans. Donc on a l'obligation de proposer des films qui touchent toutes ces tranches d'âge. Donc c'est pas, on n'a aucun mal en fait à se renouveler, d'abord en fonction de la thématique, et après de l'engagement qu'on met et des choix qu'on est amené à faire sur la qualité des films, leur capacité à toucher des publics variés. Donc non, ça c'est jamais tellement un problème. Et en plus, il se trouve que cette année, on va passer beaucoup de films d'animation. On a toujours, vu que c'est un festival jeune public, une nette orientation vers ce type de cinéma. Ce type de cinéma qui peut recouper d'ailleurs des réalités très, très variées. Mais on a la chance en France d'avoir une école d'animation parmi les meilleures au monde. Donc, franchement, on est amené à voir et à découvrir des choses extrêmement, extrêmement belles.
Et dans un style très varié aussi. Hein.
Mais très varié. Enfin, vous pouvez faire de l'animation juste avec du dessin. C'est ce qu'on a, le classique dessin animé. Mais vous pouvez faire de l'animation en volume, de l'animation évidemment en 3D, de l'animation sur papier découpé. Vous pouvez faire de l'animation avec à peu près n'importe quoi. Donc, à partir du moment où il y a un vrai travail aussi sur le récit, sur le graphisme, sur toutes les ambiances sonores, sur la musique, puisqu'on évoquait la musique il y a quelques minutes, on a sans cesse l'opportunité d'avoir affaire à des objets hyper complexes, hyper intéressants. C'est pas parce qu'on, il faut le redire, c'est pas parce que les films jeunes publics sont pas moins complexes que les films pour adultes. Donc on peut avoir des programmes qui s'adressent aux enfants, des programmes de court-métrage, comme on va passer un programme dans la compétition qui s'appelle Petit Conte sous la neige. Franchement, ça dure 40 minutes. Il y a une demi-douzaine de courts-métrages, tous très variés et très différents les uns des autres. Mais le soin incroyable, la recherche, la complexité visuelle, le travail sur les transitions font que, franchement, ça n'a rien à envier à un film vieux public. Voilà.
Comment on détermine si un film est bon pour les enfants ou pas, quoi? Parce que tu disais tout à l'heure entre 3 et 13 ans. Est-ce qu'il y a des films qui sont plus adaptés, on va dire, que d'autres ou pas? Comment se fait cette sélection? Parce que c'est peut-être pas si évident que ça de déterminer si c'est un film jeune public, entre guillemets, ou pas. Pour les tout petits, c'est plus facile, mais...
Oui, parce que là il y a plus une forme d'évidence par rapport à ça, mais pas montrer des images violentes, pas tellement d'agressivité, de choses comme ça. Mais après, on le voit bien dans les recommandations d'âge. Nous, on donne des recommandations d'âge, mais de fait, si vous allez sur un site remarquable qui est un de nos partenaires, le site de Benchy, où il y a vraiment tout un travail de fond sur le jeune public et justement qu'est-ce qu'on montre aux enfants, on peut avoir des recommandations d'âge qui varient sensiblement avec des écarts de 1 ou 2 ans. Donc c'est une appréciation qui est forcément un peu subjective aussi, qu'on est aussi sans cesse amené des fois à reconsidérer. en voyant ou revoyant tel ou tel film. Donc c'est extrêmement variable. Nous, ces recommandations sont indicatives, mais c'est vrai que la question se pose, par exemple, le film d'ouverture, là, cette année, c'est un film qui s'appelle Cro-Blanc, qui va sortir à la fin du mois de mars. Donc c'est une belle avant-première. C'est un film d'animation en 3D français, très ambitieux, qui est en fait un mélange entre deux romans de Jack London hyper, hyper connus, que sont Cro-Blanc et L'Appel de la forêt. Et un des enjeux de la mise en scène du récit, au-delà du fait de mélanger les deux histoires, c'est que une partie de ces récits sont centrés sur les combats de chiens. Donc comment est-ce que vous réalisez un film pour les enfants dont le cœur ou un aspect vraiment très important réside dans les combats de chiens?
C'était déjà le cas dans le film Cro-Blanc, qui était sorti au début des années 90, produit par Disney, où on voyait quand même les combats de chiens, c'était assez violent déjà, hein, et c'était quand même aussi un film qui était plutôt pour un public plus jeune, quoi.
Mais la question pouvait se poser pour Jack London déjà, puisque je sais que le livre est typiquement le genre de livre qu'on donne à lire à des enfants assez jeunes quand ils commencent à lire, donc il y a aussi... De mémoire, je sais que les textes sont assez... on s'en souvient, je m'en souviens. Donc. Non, et pourtant, je ne me souviens pas de tout ce que j'ai lu. Mais...
Il y a l'imagination de l'enfant qui rentre
voilà,
en compte.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut, on peut retrouver ces mêmes problématiques avec le cinéma, puisque du coup, selon la manière avec laquelle c'est avancé, ça peut être totalement intéressant, justement, de montrer ça à des enfants.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les films, tout comme les écrivains ou n'importe quelle production artistique, défient un peu les catégories toutes faites. Jack London, c'est quoi? C'est un écrivain pour enfants, c'est un écrivain social, il y a tellement de facettes dans son travail, dans son œuvre et dans son écriture. Vous soulignez à juste titre que Cro-Blanc et L'Appel de la forêt sont des romans... plutôt des romans pour la jeunesse, mais c'est aussi des romans dont l'écriture est tout sauf très simple, très, très facile. Et c'est pareil si vous mettez L'Îlot Trésor entre les mains d'un jeune garçon ou d'une jeune fille. Il y a un style hyper, hyper soutenu. Enfin, c'est quand même... Et les films ont tendance à s'affranchir un peu aussi de ces catégories-là. On est sur quelque chose de mouvant. Je parlais d'appréciation très, très variable des fois. Et par exemple, dans ce film-là, ils ont trouvé une manière que je trouve extrêmement astucieuse de traiter le sujet tout en le contournant, c'est-à-dire que les combats de chiens sont filmés en ombre chinoise. Et c'est intéressant parce que la question, c'est comment trouver une solution visuelle à un problème spécifiquement de représentation, quoi. Et c'est un des aspects vraiment ingénieux de ce film-là, la manière dont ils ont organisé aussi le récit en flashback, donc un récit non linéaire. Donc ça aussi, ça défie un peu le... On s'adresse à des enfants, mais on leur propose une manière de raconter l'histoire qui est quand même complexe. Et puis en plus, au-delà de ça, des choix graphiques qui sont tout à fait originaux, et dans le traitement des paysages et dans le traitement des figures humaines, puisqu'on c'est de la 3D, mais on est quand même très loin d'un graphisme rond, lisse, qui peut être une sorte de un peu de trademark du graphisme 3D aujourd'hui, quoi.
Intéressant de tous les points de vue, ce Cro-Blanc. Alors, en avant-première, pendant le festival, l'étoile filante, j'aimerais revenir un petit peu sur la thématique de ce festival, parce qu'on ne l'a pas donné encore, c'est la tête dans les étoiles. Il me semble qu'on ne l'a pas énoncé. La tête dans les étoiles, bien sûr, ça fait référence aux étoiles, mais surtout à l'imaginaire, ce qu'on a dans la tête. Et donc ça permet d'ouvrir sur pas mal de films. C'est un thème qui permet de passer à peu près tous les films d'animation qui existent, ou pas?
Oui, alors c'est vrai qu'on a La difficulté, c'est de choisir quelque chose de suffisamment ouvert et en même temps de suffisamment défini pour que justement on ne mette pas tout et n'importe quoi dans un sujet. Donc là, par rapport à l'intitulé, on a vraiment privilégié effectivement l'imaginaire, mais l'imaginaire céleste, le rapport aux astres, au voyage dans l'espace. C'est l'angle qu'on a retenu. On a fait le voyage aller, c'est-à-dire nous partons vers les étoiles, et puis on a fait le voyage retour, c'est-à-dire on a un film comme Jean de la Lune ou dans un tout autre registre Mars Attacks, où ce sont, et E.T. évidemment, où ce sont l'inconnu, l'extraterrestre qui vient à nous, quoi.
Tu parles de Mars Attacks. Là aussi, on peut se poser la question, 10 ans et plus, je vois écrit, ouais, d'accord, mais ils sont quand même bien sadiques, ces martiens. Il y a quand même vachement de sadisme dans ce film. Et, bon, il y a plusieurs lectures aussi possibles.
Oui, c'est la façon avec laquelle c'est montré aussi. Moi, je me souviens de Mars Attacks, je l'ai vu à bien moins de 10 ans, et c'est tellement grotesque un peu que ça, oui, m'a absolument pas choqué, quoi.
Non, je ne dis pas. Après, que c'est choquant.
Tout le monde est différent, mais à ce niveau-là.
Oui,
mais...
puis l'humour, le film, oui, effectivement, est une satire, par moments une parodie, dans pas mal de scènes où il malmène les codes du film d'invasion extraterrestre, par rapport à l'utilisation de la musique. Donc l'humour joue un grand rôle dans le film, et c'est ce qui nous a permis, semble-t-il, c'est ce qui nous a semblé de le proposer à un public à partir de 10 ans. Voilà.
Après, dans ce type de festival, et je sais au Jean Eustache, c'est aussi quelque chose qui est pris en compte, il y a aussi un travail de médiation vers le jeune public. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, est-ce que finalement on ne peut pas tout montrer s'il y a, avant le film, un travail de médiation pour que les enfants comprennent certaines choses qui pourraient être des contraintes à la vision de tel ou tel film, et qui finalement, grâce à cette médiation, peuvent être visibles du plus grand nombre.
En tout cas, il y a une chose qui est certaine, nous, dans notre pratique et dans notre travail sur les toiles filantes et en règle générale sur le jeune public ou Jean Eustache, c'est que l'époque où la séance de cinéma se limitait, correspondait simplement à j'arrive dans la salle, je vois le film et je repars, cette époque-là est terminée, quoi. On est passé évidemment à autre chose, c'est-à-dire que systématiquement, pour nous, ça consiste d'abord à habiller le lieu, à le décorer à partir de la thématique, de vraiment imaginer des solutions, des expositions, pour que dès que les gens arrivent, en fait, ils soient, pour le coup, là, vraiment transportés ailleurs. Ça, c'est une première chose. Ensuite, préciser que le tous les films, alors donc à la fois les films de la thématique et les films de la compétition, puisque ce sont deux sélections distinctes, tous les films que nous proposons sont présentés, font l'objet, voilà, d'une courte présentation auprès du public. Et puis, on a aussi toute une partie de liée aux animations. Alors, ces animations, c'est à la fois des petites conférences, là, en l'occurrence scientifiques pour les enfants. On a une conférence de Cap Science sur qu'est-ce que c'est que vivre dans l'espace, par exemple. Ça va être des ateliers de réalisation qu'on fait dans le hall ou au deuxième étage. Sur la création d'objets, par exemple. Ça va être ce genre de travail-là qui fait que la séance comprend tout un ensemble de choses.
Un package, quoi.
Oui, alors il ne faut pas se tromper, les films se suffisent à eux-mêmes. Hein, et si on le fait, ce n'est pas parce qu'il faudrait habiller... voilà, E.T. est un film qui se suffit à lui-même. La musique de E.T. se suffit à elle-même. Enfin, voilà, la création, enfin, l'œuvre, la création artistique est vraiment au cœur de nos préoccupations et des choix qu'on fait. Mais après, au-delà de ça, on s'aperçoit aujourd'hui à un moment où on peut voir des films dans à peu près n'importe quelle condition, sur à peu près n'importe quel écran. Qu'est-ce que nous, on est capable de proposer, je dirais, en plus ?
Mais grand écran suffit plus forcément, alors.
Oui, et puis, quelque part, c'est toujours une question du rapport que nous avons avec le public. On accueille des gens. Et les gens qui viennent au cinéma aujourd'hui, c'est pas seulement d'ailleurs qu'on répond à une demande, mais on s'en préoccupe aussi. Et s'ils viennent, on ressent le besoin de les accueillir de telle manière et de manière un peu originale et de manière aussi à former des spectateurs pour demain. Et voilà, c'est vraiment le cœur de notre travail. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est vrai pour les Toiles Filantes, mais c'est vrai aussi pour, je pense maintenant, beaucoup de festivals de cinéma. Le boulot s'arrête pas à la programmation, quoi.
Le boulot s'arrête pas à la programmation, mais la programmation est plutôt dense, comme chaque année dans ce festival Les Toiles Filantes, et notamment, tu l'as rapidement évoqué, il y a une compétition qui est hors thématique. Même si ça se trouve, eh bien, on peut faire quand même un lien avec la thématique. Il y a plusieurs films qui sont en compétition. Alors, des films d'animation, mais pas que. Je vois aussi qu'il y a un documentaire, Un jour c'est Ira, qui est déjà sorti d'ailleurs.
Il est sorti mercredi dans les salles. Alors, c'est un film qui a eu pas mal de retentissement. Avant même sa sortie, on savait qu'il y aurait un peu de buzz autour de ce film. Donc, Un jour ça ira, ça raconte à hauteur d'enfant.
C'est-à-dire que la caméra est toujours à hauteur d'enfant dans le film ?
Non, c'est la caméra où la mise en scène épouse le point de vue des enfants. Donc, des fois, c'est effectivement littéralement à hauteur, mais c'est surtout des enfants qu'on suit. Pour ce film qui décrit la vie dans un centre d'hébergement d'urgence qui est à Paris. Et le film intervient à un moment spécifique de la vie de ce centre, puisqu'il s'apprête à fermer ses portes, que ces gens qui sont tous des déracinés vont être dirigés ailleurs, que c'est pas la première fois qu'ils sont baladés comme ça d'un endroit à un autre, et donc les questions que pose le film à travers le regard des enfants, c'est voilà, comment est-ce qu'on accueille ces personnes-là. Il y a tout un, on voit bien le travail qui est lié à l'encadrement du centre. Comment on investit un lieu, comment on arrive à se sentir chez soi dans un lieu dont on sait dès le départ qu'il est un lieu provisoire, un lieu de transition. Ça, c'est très important. Et puis aussi, il y a l'aspect artistique, c'est-à-dire que pour la fermeture du centre, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui créent une sorte de spectacle. Où il y a à la fois des chants, des poèmes, de la musique, et où c'est l'occasion, où ces productions artistiques-là sont l'occasion aussi de parler de ce qu'ils vivent, de comment ils perçoivent leur situation. Et bon, ça devrait pas être une surprise, mais on s'aperçoit que ces enfants ont beaucoup de talent, sont extrêmement matures, sont capables de, avec l'aide des adultes, mais aussi vraiment par eux-mêmes, de formuler des choses qui les tirent vers le haut, qui les aident peut-être à vivre, et en tout cas qui sont très, très émouvantes, quoi.
Donc cette compétition, on en parle, je vois un peu en feuilletant les pages qu'on pourrait dire c'est un festival international, parce qu'il y a des films qui viennent de partout. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait une richesse dans l'animation française, mais je vois quand même aussi, justement en compétition, il y a aussi des films allemands. Alors ils ne sont pas d'animation, mais il y a des films allemands. Il y a aussi un film qui nous vient de Colombie. Il y a quand même une diversité dans les propositions de films qu'on peut... On peut dire que c'est un festival international.
Oui, 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 tout à fait. Alors, en plus, des fois, c'est presque quasiment chaque année que ça arrive, on a des cadeaux. Et un des cadeaux, par exemple, quand on a composé la compétition, c'est qu'on est tombé sur deux films. Il y en a un qui est un film allemand et l'autre qui est un film indien. Qui traite finalement de sujets un peu similaires, c'est-à-dire ces deux films parlent d'une jeune fille qui est au cœur ou qui cherche à être au cœur d'une bande d'enfants. Alors ces deux films évidemment très, très différents, Queen of Nindorf, donc, qui est le film allemand, se passe pendant un été où une jeune fille elle s'ennuie, elle a pas de copains, et elle va chercher à intégrer un groupe d'enfants qui, eux, c'est déjà un groupe constitué, qui n'est pas très enclin à l'accepter, d'ailleurs qu'un groupe de garçons, exclusivement de garçons, qui n'est pas très enclin à l'intégrer et à l'accepter. Ça, c'est une chose. Et le second film, qui s'appelle Village Rockstars, c'est un film indien, comme son titre de international ne l'indique pas. C'est un film de fiction, mais qui a un ancrage documentaire lui aussi assez fort. Ça se passe dans la région de l'Assam, en Inde, et c'est où en fait l'eau grignote les côtes, les berges, et on a une population à la fois de paysans et de pêcheurs qui sont sans arrêt menacés par la montée des eaux. Et on a au milieu de tout ça une jeune fille qui joue son propre rôle, qui a un charisme absolument incroyable, et qui, elle n'a qu'une idée en tête, elle pense pas, elle voit bien les dégâts et l'environnement dans lequel elle vit. Et en plus, elle est à un point de passage entre la préadolescence et l'adolescence. Mais elle, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire de la musique. Et tous les gamins autour d'elle ne pensent qu'à la même chose, ils ne vivent que pour la musique. Et en fait, ils se créent une sorte de bulle d'environnement, et c'est comment une passion
peut les sauver,
leur donner
une socialisation,
un but dans l'existence, parce que c'est, on voit déjà, ils sont très jeunes, mais c'est presque déjà une sorte de projet de vie, quoi. On ne sait pas trop, le film ne le dit pas, mais d'où ça vient cette espèce de passion, mais qui les investit totalement. Et donc voilà, on a l'obligation de créer dans la compétition, nous, des approches très, très variées, mais on a aussi l'opportunité, à certaines reprises, d'avoir des films qui ont des résonances entre eux, et des films qui en plus ont un ancrage très très fort. L'Allemagne d'aujourd'hui, c'est une petite ville à la campagne, mais ne ressemble pas définitivement pas à l'Assam. Mais parce que ces films ont un ancrage très fort, on a l'impression qu'ils ont aussi la capacité à diffuser un message d'autant plus universel, quoi. Voilà.
On aimerait parler du festival L'Étoile Filante encore plus longtemps. Ça commence lundi. Donc 19 février, ça dure jusqu'au 25 février. Il y a plus de 20 films d'animation et en prise de vue réelle dans la programmation. Il y a une compétition, il y a des jurys. Alors c'est sympa aussi de donner la parole à des jeunes qui vont devoir un petit peu choisir leur coup de cœur, etc. Comment ça se passe aussi avec les jeunes, ces jurys?
Ça se passe très bien, et c'est là aussi, je parlais tout à l'heure de la formation du regard, et simplement arriver à formuler ce qu'on ressent vis-à-vis d'un film, pourquoi on a été surpris, ému, choqué, pourquoi ça nous a rebuté éventuellement. Bon, ça déjà, c'est une première chose. Et après, ce que ces jurys d'enfants organisent, c'est également l'écoute des enfants entre eux. comment on arrive à échanger des points de vue. À l'arrivée, il faut bien
savoir écouter l'autre. Hein,
voilà, ça. Et à l'arrivée, il y aura un film parmi tous ceux qu'on aura vus. Donc peut-être qu'il va falloir faire des compromis. Voilà, ça s'inscrit complètement dans la manière dont on envisage le travail en direction du jeune public.
Boris Barbieri, pour retrouver toutes ces informations qu'on vient de donner et d'autres encore, on va sur le site internet www.l'étoilefilante.org.
Voilà, il y a tout sur les films, sur les projections, sur les infos pratiques, les tarifs, sur aussi les invités. Je voulais juste évoquer une projection. Et si vous aimez la musique et si vous aimez le cinéma, je vous recommande vivement de venir le jeudi 22 à 14h. On va passer Cadet d'eau douce, donc qui est un film, même si c'est pas cité au générique, c'est un film de Buster Keaton avec Buster Keaton. C'est vraiment un de ses meilleurs films. Et en plus, on aura quelqu'un qui s'appelle Arnaud Milan pour réaliser le ciné-concert. C'est quelqu'un qui travaille avec des ondes Martenot, à la guitare, au chant. Il est incroyable et vraiment, je pense que ça va être un super moment.
Je me permettais de revenir sur les informations de contact. Si jamais les personnes ont passé les 14 dernières années sans connaître vraiment ce festival, préciser peut-être que ça s'écrit l'étoile filante.
Oui, c'est l'étoile cinématographique.
Voilà, mais c'est pas l'étoile. Voilà.
Non, c'est pas
l'étoile dans le ciel.
Même si on la retrouve quand même, l'étoile filante, ouais, sur le logo du festival.
Tout à fait.
C'est Allez. Vrai qu'il y avait une sorte de prédisposition. Là, on traite la tête dans les étoiles. On était vraiment prédestiné à traiter ce thème-là un jour ou l'autre. Quoi.
Le thème de cette année, c'est presque le titre du festival. Allez, salut à tous.